Décryptage, Anne Cantner.
40e jour de grève en France et autant de journées sans salaire pour ceux qui protestent contre la réforme du système des retraites. Heureusement pour eux, les grévistes peuvent compter sur les caisses de grève. Il y en a beaucoup et la principale a récolté déjà plus de 2 millions d'euros. C'est un appui considérable, indispensable surtout pour les grévistes qui souhaitent poursuivre le mouvement. Un soutien financier donc auquel il faut ajouter le soutien populaire qui dure. Bref, les Français ne semblent pas tourner le dos aux grévistes. Comment peut-on l'expliquer ? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Gabriel Rosenmann.
Bonsoir.
Vous êtes doctorant en sciences politiques sur les caisses de grève à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École normale supérieure. Et dans une vie passée, vous avez été cheminot. Pour échanger avec nous par téléphone, Stéphane Siro, historien et enseignant à l'Université de Cergy-Pontoise. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Je le disais, plus de 2 millions d'euros pour la principale caisse de grève. Ça n'est pas la seule, on en compte plus de 200 cagnottes en ligne, plus les caisses qui circulent dans les manifestations. Il existe même un compte Twitter qui recense toutes ces cagnottes en ligne. Il a compté, j'ai vérifié tout à l'heure, 59 000 donateurs, un peu plus même, pour un total de 3 800 000 euros. Gabriel Rosenmann, qui participe à ces caisses de grève ? Est-ce que ce sont des proches des grévistes, des salariés qui ont des revenus assez confortables ou des non-grévistes qui cherchent à soutenir le mouvement d'une autre manière ?
Bien, je pense que la participation en fait est assez large, parce qu'il y a aussi bien des salariés de secteur qui eux-mêmes ne ressentent pas la possibilité de se mettre en grève dans la situation actuelle. Ils font face dans toute une série de secteurs du salariat à des obstacles assez importants en termes à la fois statutaires, managériaux et financiers. Mais ils sentent l'urgence de soutenir les grévistes à l'heure actuelle. Et il y a aussi des retraités, des indépendants, des chômeurs, qui ne sont pas directement concernés par la possibilité de faire grève. Mais dans tous les cas, on voit que le soutien est très large et même assez inédit, puisque cette somme que vous mentionniez de 3,8 millions d'euros, je crois que dans le cas d'un mouvement interprofessionnel, c'est quelque chose d'absolument nouveau et qui correspond à la fois à la longueur de la grève, puisque 40 jours, c'est quand même quelque chose d'assez rare, et à la détermination des grévistes qui ont mis en place des caisses de grève locales dans la plupart des dépôts, des gares, des écoles, des universités, comme un moyen pour s'organiser, pour tenir. Et parce qu'ils font face, je pense, à une dimension qui est assez nouvelle par rapport à des grèves précédentes, qui est un remplacement assez systématique des grévistes, qui pousse les grèves à s'allonger sur la durée, puisque l'employeur ou l'entreprise subit des pertes financières moins grandes puisque l'activité n'est pas complètement suspendue. Et c'est fait aussi pour, en gros, miner le moral des grévistes.
Donc ça réduit l'impact matériel et puis effectivement, ça a un effet général sur le mouvement en lui-même. Stéphane Siro, ces caisses de grève, est-ce qu'elles sont un moyen pour certains de faire grève par procuration, comme on l'a évoqué un peu rapidement ?
Oui, sans doute, hein, puisqu'on sait que généralement, et pas seulement dans ce conflit, quand il y a ces formes de solidarité qui se développent, alors soit il peut s'agir parfois d'ailleurs de soutiens qui viennent d'une même profession, hein, c'est souvent arrivé dans l'histoire que localement, une catégorie ouvrière se met en grève et soit aidée par ceux qui exercent le même métier dans d'autres localités ou d'autres régions. Mais là, effectivement, dans un conflit comme celui-là, on a une solidarité qui vient plutôt, semble-t-il en tout cas, des horizons qui viennent d'être décrites. Je me souviens hier soir encore avoir regardé Philippe Martinez qui citait cette anecdote en direct selon laquelle un chômeur aurait envoyé à la CGT un billet de 5 euros pour exprimer sa solidarité. Donc on voit bien qu'en effet ça vient d'un peu partout et de ce point de vue ça n'est pas sans rappeler un autre grand conflit célèbre que j'ai moi-même pas mal étudié, qui est celui des mineurs en 1963. Alors celui-là n'était pas interprofessionnel, ne concernait que les mineurs français, mais qui était 200 000 à l'époque et présent sur tout le territoire, et qui avait rassemblé à peu près l'équivalent en euros d'aujourd'hui de quelque chose comme 2 millions d'euros. Hein, on est un peu dans cet ordre de grandeur et c'était jusqu'à présent, à ma connaissance, cette grève qui détenait le record de soutien de la part de la population, de soutien qui venait de tous les horizons d'ailleurs, un peu comme aujourd'hui. Donc on a des précédents dans l'histoire, mais ce mouvement d'aujourd'hui, il est quand même assez exceptionnel par l'ampleur et la diversité des soutiens qu'il reçoit.
Gabriel Rosenmann, est-ce que l'existence même de ces caisses de grève donne une indication sur la durée du mouvement ? Est-ce que ça veut dire que, à partir du moment où elles sont constituées, on sait que le mouvement va s'inscrire dans la durée ?
Je ne serais pas aussi catégorique, mais peu, et c'est sûr que ça correspond à une volonté des grévistes de tenir. Et je pense qu'il y a une dimension importante à prendre en compte, qui est sur le timing même de la grève et de l'afflux des soutiens. Il y a eu une vraie accélération à partir du 20 décembre, avec à la fois une explosion du nombre de caisses et des dons.
Donc 15 jours après le début du mouvement.
C'est ça, 15 jours après le début et surtout quelques jours avant le début des vacances scolaires. Et je pense que c'est ça qui a été perçu très largement par tous les soutiens du mouvement gréviste ou pas. C'était que les vacances scolaires allaient être un moment un peu difficile à passer, à la fois parce que l'éducation nationale jouait un rôle dans la grève les deux premières semaines et parce que ça voulait dire repousser à au moins 2 semaines la perspective d'un élargissement du mouvement. Et donc il y a eu cette intuition qu'il fallait aider les secteurs en grève reconductible à tenir. Et donc c'est pour ça que les dons sont arrivés avant, juste au début des vacances scolaires. Après, le mouvement continue maintenant avec quasiment 100 000 euros de dons qui arrivent tous les jours à la caisse Infocom, qui est la plus grande. Et donc oui, de fait, c'est un mouvement qui tient et qui tient en partie grâce aux caisses de grève.
Vous parliez de cette période clé des fêtes de fin d'année et des vacances scolaires en France. C'était aussi quelque chose qui avait mobilisé l'attention parce qu'à ce moment-là, le gouvernement avait demandé une trêve pour que la circulation soit rétablie de manière normale dans les transports en commun. Ces montants recueillis, ils aident bien sûr les grévistes à tenir, mais ils envoient aussi peut-être un message au gouvernement. Ça crée un rapport de force.
Bien sûr, les caisses de grève, ça s'adresse toujours à la fois aux grévistes et à leurs adversaires. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, la caisse Infocom et aussi d'autres caisses comme celle de la CGT, des hôtels de prestige, qui a organisé plusieurs grèves longues dans l'hôtellerie, dont une en ce moment qui dure depuis quasiment 6 mois à l'Ibis Batignolles, organise systématiquement des remises de chèques assez cérémonielles avec des grands chèques géants, des photos. Et je sais que les responsables de la CGT HPE envoient systématiquement ces photos-là au DRH et à l'employeur pour leur envoyer le message que les grévistes peuvent tenir et que c'est à eux de céder.
Donc un message qui s'adresse aux grévistes pour les soutenir et évidemment aux personnes avec qui on espère négocier un peu plus tard.
Il n'y a pas de problème, on a toujours la solidarité avec les voisins, avec les amis, avec la famille. Puis ça se passe bien. Maintenant c'est vrai qu'on a un impact, on va dire, pour les gens. Ils galèrent, on galère aussi pour venir en manif et puis voilà quoi. Mais ça vaut le coup, il faut se battre. Pour l'instant, moi je pars du principe, c'est qu'on est à bientôt 40 jours de grève. Donc on va pas partir une main devant, une main derrière. On va continuer jusqu'à la fin, ce retrait de cette réforme. Comme il a fait en Belgique, il faut qu'il fasse pareil, M. Macron. Arrivé à un moment, il va falloir qu'il entende le peuple, qu'il sorte de ce conflit. Parce que ça commence à leur coûter cher, et bien plus cher que leur réforme.
Vous aussi, ça vous coûte cher, non ?
Ouais, mais eux, ça leur coûte plus cher, je pense.
Le témoignage d'un manifestant gréviste qui arpentait justement le cortège samedi dernier pour alimenter une caisse de grève. 40 jours, ça représente des pertes financières énormes pour tous ceux qui sont en grève. Est-ce que ça conditionne la suite du mouvement, Stéphane Sirot, dans le sens où ces personnes, comme on l'entendait à l'instant, seraient plus déterminées en se disant un peu « on ne peut pas arrêter maintenant sans avoir rien obtenu compte tenu du point jusqu'auquel on s'est engagé. On ne peut pas avoir fait tout ça pour rien. »
Oui, alors il y a effectivement cette dimension. Plus une grève dure et n'obtient pas satisfaction sur l'essentiel, plus il est effectivement difficile pour ceux qui... ils participent de reprendre le travail sans avoir obtenu suffisamment satisfaction. En même temps, la durée, c'est aussi handicap d'une certaine manière, puisque bien évidemment, plus elle dure, plus les pertes de salaire sont importantes. Et même si les caisses de grève dont on parle atteignent des sommes importantes, c'est loin de remplacer les pertes de salaire quotidiennes de ceux qui sont engagés dans le mouvement. D'où aussi, d'ailleurs, comme c'était évoqué dans le témoignage qu'on vient d'entendre, l'importance des soutiens qui peuvent exister à l'intérieur des familles ou des réseaux amicaux. Ça aussi, je pense que c'est au moins aussi important que les subsides en monnaie sonnante et trébuchante que peuvent recevoir les salariés qui sont en grève. Et d'ailleurs, dans l'histoire des grèves, on a aussi ces formes de solidarité matérielle venues dans les grandes grèves ouvrières, par exemple des commerçants du quartier qui, à un moment donné, vont soit donner des marchandises ou faire crédit ou des aides venues effectivement des amis ou de la famille et qui aident au quotidien à tenir encore bien plus sans doute que les soutiens purement financiers.
Alors, on parlait à l'instant des pertes considérables en termes de salaire. On aura l'occasion de revenir, si vous le souhaitez, Gabriel Rosenmann, sur ces autres formes de soutien qui existent. Avant ça, je voulais vous entendre sur le fonctionnement des caisses de grève, puisque Stéphane Sirot nous disait qu'évidemment, cela ne suffisait pas à compenser les pertes de salaire. Comment est-ce que l'argent collecté est utilisé et redistribué ?
Alors, c'est très variable, puisque les caisses de grève sont en nombre très, très important et chacune va fixer son propre fonctionnement. Je pense qu'une constante à peu près, c'est qu'on divise en fait jamais le montant total récolté par le montant total des grévistes, parce que ça voudrait dire un versement vraiment symbolique et du coup avec peu d'impact sur la perte financière réelle. En général, l'argent récolté est plutôt dédié aux grévistes qui ont plus de difficultés financières, les cas de surendettement, les familles nombreuses, les couples de grévistes, etc. Parfois, il y a des calculs faits sur le nombre de jours effectués, donc avec l'idée qu'on fixe un seuil minimum qui peut être, dans le cas de la caisse d'Infocom, de 2 jours, dans le cas de pas mal d'assemblées générales de cheminots ou de la RATP, à 10 jours ou plus, pour indemniser ceux qui ont perdu le plus. Dans d'autres cas, on prend en compte même le contrat de travail, savoir par exemple les agents qui sont à mi-temps n'ont pas la même indemnisation que ceux qui sont à temps plein. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs possibles. Ce qui est important en particulier en ce moment, c'est que, qui avait déjà été le cas pendant la grève de la SNCF l'année dernière, c'est l'idée qu'on n'attend pas la fin du mouvement pour faire l'addition, mais qu'il y a besoin de versements en cours de grève pour aider les grévistes à tenir et pas simplement pour réduire les pertes une fois que ce sera fini. Donc c'est pour ça que ces caisses de grève-là jouent un rôle politique pendant la grève, en donnant confiance.
Auquel il faut ajouter, comme nous le disait Stéphane Sirot, d'autres formes de soutien. Vous vouliez réagir sur ce point-là ?
Oui, sur le soutien matériel, il y a à la fois une longue tradition qu'on a appelée pendant longtemps les soupes communistes, avec des très belles photos, cartes postales qui ont beaucoup circulé à l'époque, et donc d'organiser des repas collectifs à la fois pour soutenir matériellement et moralement les grévistes. Et il y a aussi des initiatives de ce type-là qui sont en train d'émerger. Par exemple, aujourd'hui même, il y a une initiative qui a été lancée qui s'appelle Caisse de grève en nature, qui a, je crois, a beaucoup circulé puisque... alors, j'ai plus le nombre exact de tweets, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de massif et qui appelle à mettre en place une application ou par le biais de Facebook et à soutenir les grévistes en remplissant des frigos, en faisant le plein d'une voiture, avec des dimensions très, très matérielles et adaptées aux besoins individuels des grévistes. Et je pense que c'est quelque chose qui est... à la fois correspond à la volonté de soutien, mais aussi à ce que permettent les nouvelles technologies, et qui est vraiment une dimension centrale pour comprendre cette émergence des caisses de grève à l'heure actuelle. Puisque
c'est ça aussi qui permet justement le succès inédit qu'on observe ces jours-ci ?
Oui, je pense que la forme numérique des cagnottes en ligne a complètement changé la donne, puisque ça permet à des soutiens très loin géographiquement ou socialement de soutenir une grève, alors que les collectes dites traditionnelles étaient une boîte à chaussures, une boîte de conserve sur le piquet de grève ou en manifestation, ça existe toujours, mais du coup ça permet un soutien beaucoup plus large. Et avec même beaucoup d'autres initiatives de ce type-là. La caisse Infocom a été abondée par une structure qui s'appelle le Stream Reconductible, où c'est une équipe de joueurs de jeux vidéo qui ont mis en place un système de relais pour jouer 24 heures sur 24 pendant plusieurs jours et qui ont versé 100 000 euros à la caisse Infocom. Et donc ça aussi, c'est les nouvelles technologies et c'est quelque chose de très nouveau.
Alors, il est arrivé qu'à l'issue d'un mouvement social, certains jours de grève soient payés quand même ou transformés en jours de congé. Est-ce que ça se fait encore, Stéphane Sirot ?
Non, alors c'est vrai qu'en fin de conflit, c'était assez traditionnel de voir les journées de grève négociées, soit étalées dans le temps, soit effectivement parfois aussi échangées contre des jours de congé. Ça s'était fait d'ailleurs lors du mouvement de 95, hein, qui avait touché aussi les cheminots et la RATP. Il y a eu des négociations de fin de conflit sur cette question. Mais on voit bien que depuis 15-20 ans, l'argent est le nerf de la guerre, comme on dit. Il a toujours été dans les mouvements sociaux, mais d'une certaine manière, il est devenu, en tout cas dans ces grands mouvements, un outil particulièrement utilisé par notamment les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, les retenues sont systématiques. Elles sont aussi de plus en plus rapides. C'est vrai, par exemple, dans l'éducation nationale, où les retenues sur salaire se font quasiment d'un mois sur l'autre, ou presque. Et il n'y a plus de négociation sur ces questions-là. Donc on voit bien qu'il s'agit, au travers de ces questions financières, de faire pression sur ceux qui sont en grève ou sur ceux qui seraient amenés à le faire et qui savent aujourd'hui que dès lors qu'ils arrêtent le travail, quoi qu'il arrive, les retenues sur salaire s'effectueront et ne seront plus l'objet de discussions comme elles pouvaient l'être auparavant.
Gabriel Rosenmann, vous vouliez réagir?
Oui, je suis d'accord avec Stéphane Sirot que dans les grandes grèves nationales, les négociations sur les conditions de reprise sont très rares ces derniers temps parce qu'en fait, il y a eu peu de victoires. Parce que pour négocier sur les conditions de reprise, en fait, il faut gagner la grève. Mais heureusement, c'est toujours le cas dans de nombreuses grèves locales qui, du coup, se retrouvent en situation de négocier des conditions de reprise avantageuses qui neutralisent les journées de négociation pour décompter ça des jours de grève ou qui étalent enfin, toutes les solutions que Stéphane Sirot évoquait. Mais du coup, c'est dans le cadre d'une victoire.
Donc effectivement, il faut, alors là, dans ce cas-là, attendre l'issue et effectivement avoir obtenu quelque chose lors des négociations, ce qui n'arrive pas toujours et pas si souvent. En tout cas, on a beaucoup parlé du soutien matériel que sont les caisses de grève. Les grévistes, en ce moment, bénéficient aussi d'un soutien dans l'opinion, même si ce soutien baisse un peu, à en croire les derniers sondages. La majorité des Français appuie toujours ces grévistes. Ça veut dire que la gêne dans les transports, dont on a beaucoup parlé pour les Parisiens, par exemple, n'a pas vraiment d'incidence, Stéphane Sirot?
Il faudrait, pour le savoir, faire des sondages qui seraient ciblés sur les Franciliens. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait. Mais ce qui est évident, c'est qu'il existe un socle très solide de sympathie ou de soutien à ce mouvement. Et, me semble-t-il, encore plus solide si on affine les choses, parce que on est autour de 49-50% de soit de soutien, soit de sympathie à ce mouvement. Mais si on détaille les choses, on constate assez clairement que si on retire les retraités qui sont la catégorie qui, en revanche, désapprouve le plus massivement ce mouvement, et si on ne garde que ceux qui sont en âge d'être touchés, concernés à plus ou moins long terme par cette réforme des retraites, on a en revanche un soutien qui, lui, est bien plus massif que ce qu'exprime le sondage dans sa globalité.
Qu'est-ce qui fait la différence, Stéphane Sirot, au niveau de l'opinion? Pourquoi est-ce que ce mouvement-là est largement soutenu et de manière durable, alors que la grève des cheminots de 2018, par exemple, qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, avait été beaucoup plus critiquée? Qu'est-ce qui change?
Alors, il avait été beaucoup plus critiqué, effectivement, mais en même temps, il n'y avait pas non plus de désaveu massif. Il y a quand même assez généralement une certaine sympathie des Français à l'égard des mouvements sociaux, parce qu'ils savent très bien que ceux qui les mènent ne le font pas pour le plaisir et le font généralement, y compris pour l'intérêt général. Et précisément, de ce point de vue, la réforme aujourd'hui qui est proposée, comme son nom l'indique, se veut une réforme universelle, et donc qui, par définition, est censé toucher tout le monde, sauf, comme je le disais, ceux qui sont déjà en retraite, mais en tous les cas qui concernent toutes les générations et tous les Français. Et donc il est évident que la solidarité peut sans doute davantage s'exprimer dans ces conditions-là que lorsqu'il s'agit de défendre ou de paraître défendre simplement son statut personnel.
Et des intérêts plus corporatistes. Est-ce que le gouvernement peut infléchir cette tendance, ce soutien dans l'opinion, Gabriel Rosenmann?
Bah, c'est à ça qu'il s'efforce depuis le début de la grève, mais manifestement toutes les opérations de jusque-là n'ont pas marché, puisque la grève non seulement tient dans les secteurs où elle est majoritaire, où elle l'a été, mais il y a même des secteurs assez surprenants. Enfin, voir les grévistes de l'opéra, par exemple, recevoir le même chèque d'une caisse de grève que les cheminots, c'était quelque chose d'assez fort pour tout le monde. Je pense que là-dessus, c'est ça le nœud du mouvement, c'est est-ce que on va rester dans le cadre d'une grève RATP-SNCF et quelques secteurs en minoritaire, ou est-ce qu'il va y avoir une extension de la grève? Je pense que c'est vraiment ça qui est recherché par les grévistes et qui explique aussi la sympathie. C'est-à-dire que c'est pas l'idée d'un conflit isolé du reste de la société, mais d'un conflit qui est à l'échelle de l'ensemble.
Décryptage, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à notre discussion. Gabriel Rosenmann, doctorant sur l'histoire et l'actualité des caisses de grève à l'EHESS et l'ENS à Paris. Et Stéphane Sirot, spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, enseignant à l'université de Cergy-Pontoise. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à l'écoute de RFI.